Et bienvenue dans Altermédia en escapade, l'émission qui renouvelle vos sources d'infos locales. Merci à vous d'être là. Traiter de l'info locale, c'est pas rester indifférent à l'agitation du monde. De Toulouse à Marseille, la rédaction d'Altermédia couvre des territoires vivants, traversés par des histoires, des parcours, des expériences. Nous allons à la rencontre des personnes qui font vivre ce territoire et aussi des personnes qui le traversent. En partant du local, Altermédia rencontre des blessures et des rêves et ouvre le lieu d'une rencontre avec le monde. Au sommaire, à l'heure où le régime iranien est en train de sombrer dans un bain de sang, on parlera du dernier spectacle de Mina Cavani, donné la semaine dernière à Villeneuve-les-Maguelones, et de la situation du peuple iranien. Dans la continuité de notre dossier magazine « Où en est le collectif ?», Altermédia interroge la notion de collectif entre promesses, tensions et réalités concrètes. On suivra la poète Lily Frick, partie questionner la fonction du collectif auprès d'artistes seuls dans l'acte de créer. Son entretien avec l'artiste peintre Virginie Guidé commence comme ça. Je t'écoute. Si je parlais avec mon cœur, je dirais « j'ai horreur du collectif, j'aime pas aller à la piscine ». Et dans la rubrique Média, nous pointerons la complicité assumée des médias français et de certaines entreprises comme Capgemini aux dérives autoritaires et sécuritaires de l'ICE, la police de l'immigration de Donald Trump, qui a tué deux innocents à Minneapolis et provoqué une contestation massive du peuple américain. Et nous conclurons par un entretien avec une figure de la radio, Daniel Mermet, autour du documentaire qui vient de co-réaliser avec Olivier Azam, Owarzine, une histoire populaire américaine. 2. I'm Deranged, c'est le titre de la création de l'iranienne Mina Cavani, donnée le 27 janvier dernier au théâtre Jérôme Savary à Villeneuve-les-Maguelones. Mina Cavani a quitté l'Iran des Mollahs pour la France à 21 ans. Tout retour lui est interdit depuis qu'elle a osé jouer une scène d'amour à l'écran. Dans ce monologue, elle convoque son enfance à Téhéran, les fêtes interdites, les films occidentaux regardés en secret chez ses parents, les vapeurs d'opium et les femmes voilées qui contrôlaient sa tenue à l'entrée de l'école. Mina Cavani explore aussi les blessures du déracinement et la nostalgie d'une terre perdue. Particulièrement douloureuse au moment où son peuple vit une situation extrême, sans équivalent récent dans l'histoire iranienne. Les larmes à fleurs de paupières devant une salle debout dans le silence vibrant du théâtre Jérôme Savary à Villeneuve-les-Maguelones, Mina Cavani a tendu ses mains jointes vers le public, exhortant à devenir la voix de la douleur des 40 000 réfugiés iraniens en France. « Soyez leur voix », a-t-elle dit. I'm Deranged, qui reprend le titre de la chanson de David Bowie, a pris forme lors d'une résidence d'artiste à Marseille. Un jeu du miroir sur scène qui vient souligner la fragmentation de l'identité. Je ne sais plus à quoi j'appartiens, je suis une étrangère partout. Je voulais juste être une femme et respirer, je voulais juste rire. Le 17 janvier, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Paris et plusieurs villes françaises pour afficher leur solidarité avec le mouvement qui a défié le pouvoir en Iran. Le peuple iranien est descendu courageusement dans la rue et le régime a fait des massacres. Entre la coupure d'Internet et la manipulation systématique des chiffres, il est difficile de documenter ce qui s'est passé. Les viols et les exécutions à grande échelle perpétuées par les gardiens de la révolution font de ce sinistre épisode le massacre politique potentiellement le plus meurtrier du XXIe siècle.
funny how secrets travel. I start to believe if I were to leave, things guide a man, shakes his hands held high. Cruise me, yacht, cruise me, babe. A blonde leaf beyond, beyond, beyond. Blow me down, no return. So cruise me baby on. And the rain sets in, it's the angel man, I'm deranged. Cruise me, cruise me baby.
This was a good.
David Bowie, I'm Deranged, extrait de la BO du film de David Lynch, Lost Highway. Il y a quelques années, à l'occasion d'un spectacle du dramaturge iranien Amir Reza Kohestani, dont les pièces sont basées sur la vie imaginaire causée par l'environnement politique et social, il m'avait confié qu'il ne parlait pas des politiques pour parler de la politique, mais des individus. Cela m'est revenu en pensant à la situation des millions d'Iraniens prisonniers de leurs tyrans. C'est en s'intéressant aux individus que l'on entre vraiment dans le sujet, m'avait glissé Kohestani. Il suffit de voir ce qui se passe et de mesurer les similitudes des crises que traversent les peuples dans de nombreux pays qui se croyaient loin les uns des autres. Le monde humain doit s'intéresser au tréfonds de chaque individu pour atteindre la dimension politique qui est aujourd'hui mondiale, avait-il poursuivi. Sommes-nous intimement concernés par ce que suggère Reza Kohestani, par ce qui se passe en dehors, à l'extérieur de nos maisons et de nos frontières. D'ailleurs, où situons-nous nos frontières personnelles, nos limites? Quel espace mettons-nous entre nous et les autres personnes? Jusqu'où laissons-on les autres entrer dans nos vies? L'établissement de nos frontières personnelles est nécessaire à notre équilibre. Il est aussi possible que nous ayons à les redéfinir, par exemple lorsque nous examinons nos valeurs et remplaçons celles que nous qui ne nous correspondent plus réellement par d'autres qui nous concernent mieux. Ce processus qui nous pousse à nous redéfinir doit parfois être réactivé dans notre propre intérêt. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, à Gaza, aux États-Unis, ce qui se passe, ou en Iran, est un moment propice pour remettre nos frontières personnelles au goût du jour. Simplement parce que nos destins sont de plus en plus liés, on dédie cette émission à l'imaginaire des Iraniens comme lieu de création et de signification politique. Et vous êtes sur Radio Escapade avec le média indépendant Alter Midi. Pour percevoir ce qui est en jeu aujourd'hui dans le mot collectif, la poète Lily Frick décide d'aller dans une galerie d'art. On écoute un extrait de sa rencontre avec l'artiste peintre Virginie Guidé.
Alors voilà, on dit qu'on fait simple. Donc bonjour Virginie Guidé. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté sans qu'on se connaisse. On va se parler. J'ai envie d'entendre le mot collectif par ta bouche à toi, Virginie. Qu'est-ce que c'est pour toi? Enfin, dis-moi, même dans le désordre.
Ouais, même voilà. Dans le désordre.
Ouais, vas-y.
Mais en fait, a priori, j'ai des a priori sur le mot collectif et des réserves.
Super.
Et donc, dans mes a priori et mes réserves, j'ai du mal à consentir dans certaines formes de collectif, à adhérer à une pensée, souvent unique, à une marche, tous dans le même sens, sans en général avoir la possibilité d'exprimer des idées ou d'autres propositions, ou proposer de sortir dans des sentiers battus.
Ok, oui.
Les autres a priori que j'ai avec le mot collectif, c'est plus dans un point de vue sociétal.
Moi, je t'écoute.
Hein. Et donc, par exemple, si je parle avec mon cœur, je vais dire, j'ai horreur du collectif.
Ouais.
J'aime pas aller à la piscine, c'est collectif.
Ouais, tout ça, vraiment, tout ça, c'est voilà. Dans le mot collectif.
Si je pars en vacances, je vais chercher un camping où il y a 15 emplacements. Je ne vais pas aller dans un camping où il y en a 1000.
Ouais.
Et rien que l'idée de partager les toilettes, la douche, ça me rebute.
Dans le mot collectif, d'abord, toi, c'est ça que tu entends.
Oui.
Et tu ne sais pas d'où ça vient? Tu n'as pas une idée de pourquoi dans ce mot-là, tu entends tout ce qui enferme, tout ce qui contraint, tout ce qui...
Je pense que ça date depuis très longtemps. Ça date tout de même de mon enfance.
Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais savoir si c'était pas lié à quelque chose de scolaire.
Si.
Donc.
Les colonies de vacances.
Ok.
J'avais horreur de partir en colonie de vacances et j'y étais contrainte. Donc je les ai connues.
Oui.
Et à l'école notamment, comme j'avais une situation sociale un peu atypique.
Oui.
J'ai beaucoup souffert d'être considérée comme différente des autres.
D'accord, donc pour toi, collectif, le collectif, c'était le normatif, c'est-à-dire quelque chose qui te montrait du doigt.
Qu'il fallait suivre,
ouais, d'accord.
Et qu'il fallait suivre. Et du coup, des difficultés à exister, parce que j'avais l'impression que je ne correspondais pas au collectif.
Ouais.
Et comme le collectif, donc c'était les enfants, même les professeurs,
ouais.
Comme j'allais pas dans leur sens de par ma situation, je me suis souvent heurtée, pour le coup, à leurs préjugés. C'est ça. Ce côté collectif ne ressemble en rien à un projet collectif. Alors on critique beaucoup aujourd'hui l'individu, l'individualisme. Mais on perd la notion d'individualité qui existe dans la société. On ne peut pas être tous transparents, on ne peut pas être tous jaunes, on ne peut pas être tous uniformes.
J'entends totalement ce que tu entends dans le mot collectif qui peut faire qu'on déteste le mot collectif. Et donc forcément, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait donc que tu es dans un collectif artistique ? L'œuvre, ça suffit pas. Tu crées, mais ça te suffit pas, l'œuvre.
Non. Voilà. Moi, j'ai besoin de le partager. Ouais. J'ai besoin de le partager. Pour créer l'œuvre, je passe beaucoup de temps seule.
Oui.
Avec moi-même. Et j'ai toujours cherché un équilibre entre mon temps de création où je suis seule.
Oui.
Et la vie sociale, la relation sociale.
Oui.
Après, j'ai fait plusieurs tentatives, et même de collectifs. Qui se sont soldés par des échecs.
J'essaie de te coller au mur.
Ouais, vas-y.
Même quand l'œuvre est là, qu'elle te comble, qu'elle te convient, ça suffit pas.
Non.
Quelque chose te manque. Et alors c'est quoi ? Il te manque quoi ?
Je pense que c'est vraiment le besoin de le partager.
Et ça veut dire quoi, partager l'œuvre ?
Ça veut dire échanger des idées, des points de vue, donc une écoute.
Oui.
Donc un détachement aussi de son ego.
Oui.
C'est tout ça partagé.
Il n'y a pas quelque chose aussi qui pourrait s'appeler de l'amour, tu sais, parce que sans y mettre quelque chose de forcément sentimental, qu'est-ce que l'autre peut t'apporter ? Ça me satisfait pas si on dit simplement un regard. Oui, je comprends un regard. Oui.
Non, mais
il me semble que c'est plus profond. C'est pour ça que je vais jusqu'à dire.
Oui, oui.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, mais de l'amour qui permet, tu sais, comme, excuse-moi de te dire ça, ce qui permet de rester vivant dans un camp de concentration.
C'est ça. Donc, et c'est même, alors, sans que le mot soit galvaudé.
Oui.
C'est aussi une façon de trouver une reconnaissance, d'être, de soi. En tant qu'artiste, en tout cas pour moi,
oui.
C'est quelque chose qui est vraiment très important. Parce que quand ce sentiment existe, et ben justement, c'est là où je me sens vivante, c'est là où je sens que je suis bien dans mon axe.
Oui, bien dans son axe. Le collectif, ça permet bien des choses, même si on n'y croit pas au début. On passe à notre rubrique Média. Intermédia en escapade vous propose des chroniques, des interviews, des reportages, sans perdre de vue le monde des médias dans lequel nous baignons quotidiennement. Cela suppose de rester alerte et critique. On observe par exemple que les dérives autoritaires de la sécurité et sécuritaires de l'ICE, la police de l'immigration de Donald Trump, pour ne pas dire sa police politique, qui a abattu deux citoyens américains à Minneapolis, peuvent compter sur une complicité assumée dans les médias français. Faut-il une police de l'immigration en France ? Au lendemain du meurtre d'Alex Preti, le 24 janvier, par des agents fédéraux de l'ICE, BFM TV... TV, n'a pas trouvé meilleur angle pour parler des horreurs perpétuées par cette milice. Sur CNews, l'ancien avocat et conseiller d'État Arnaud Karsfeld a carrément appelé à faire de grandes rafles contre les personnes en situation irrégulière sur le territoire français. Si on veut se débarrasser des OQTF, obligation de quitter le territoire français, il faut organiser, comme fait Trump avec ICE, des sortes de grandes rafles un peu partout, a-t-il déroulé dans ses propos, sans que ses propos ne suscitent l'indignation du plateau. En référence au meurtre de René Good, abattu d'une balle dans la tête par les agents de l'ICE le 7 janvier, toujours à Minneapolis, il ajoute que pour réaliser ces grandes rafles, il est nécessaire de mettre en œuvre, je cite, « une stratégie politique avec l'intention même de commettre parfois des injustices », légitimant ainsi la mise au rebut de l'état de droit et les crimes commis par la milice de Donald Trump. Dans un inversement saisissant de la réalité, le journal du dimanche a quant à lui titré « Au lendemain du meurtre d'Alex Preti, les Antifa traquent la police de l'immigration de Trump ». De quoi minimiser là encore les exactions commises par l'ICE en les plaçant en position de victime. Ces séquences médiatiques donnent l'occasion de mettre en lumière les soutiens et les complices de l'ICE en France. Dans la sphère de l'extrême droite, on a pu entendre Marion Maréchal relativiser la gravité des faits au micro de France Inter en évoquant au sujet d'Alex Preti un simple incident. Sur BFM TV encore, le 25 janvier, Éric Zemmour a même été un cran plus loin en affirmant qu'il faudrait être impitoyable contre l'immigration illégale et légale. Rappelons s'il est nécessaire qu'en France aussi, la police tue. Selon un recensement indépendant réalisé par le média indépendant Basta, 52 décès sont liés à des interventions policières en 2024. C'est plus que le nombre de décès parmi les personnes détenues par l'ICE en 2025, au moins 32 selon certaines estimations. Le 14 janvier dernier, El Alsen Diarra, un Mauritanien de 35 ans, perdait la vie durant sa garde à vue dans un commissariat du 20e arrondissement de Paris. À Toulouse, dans le quartier La Fourette, un an après la mort de Bilal des suites de sa chute en scooter provoquée par la police, les habitants et ses amis et ses proches demandent toujours que la vérité soit faite, tandis que l'enquête patine. Vous trouverez plus d'infos sur ces deux affaires sur notre site altermidi.org, car s'il faut continuer de scruter les dérives du régime trumpiste, n'oublions pas de regarder en face ce que se déroule en France sous nos yeux. La traque des immigrés menée par la police de l'immigration américaine ne serait pas possible sans le puissant arsenal technologique du capitalisme de surveillance. À commencer par le géant de la surveillance Palantir, cofondé par le mania d'extrême droite Peter Thiel, qui a signé un contrat de 30 millions de dollars pour équiper l'ICE de ses logiciels d'intelligence artificielle et optimiser la traque des immigrés. Connu pour sa maxime « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles », Thiel est l'une des figures de proue de cette vague techno-fasciste. On ne peut donc que s'inquiéter de voir lundi 26 janvier l'Académie des sciences morales et politiques à Paris ouvrir ses portes à Peter Thiel. L'objectif de sa venue, selon les informations du journal Le Monde, plancher sur l'avenir de la démocratie. Trump a fléché plusieurs dizaines de milliards pour l'ICE, qui est désormais l'agence la mieux financée de toute l'histoire des États-Unis. D'un peu plus de 9 milliards de dollars en 2025, son budget annuel devrait passer à 11 milliards en 2026. Cette manne profite à de nombreuses entreprises qui fournissent l'ICE en biens et en services divers, allant des armes et équipements de protection aux services numériques, en passant par la détention et le transport des victimes de l'agence. Parmi ces entreprises, un nom a retenu l'attention, celui d'un champion français des services qui figure comme pilier du CAC 40, Capgemini. Une des filiales américaines du groupe Capgemini Government Solutions s'est vue attribuer par l'ICE un nouveau contrat, révèle l'Observatoire des multinationales. Son objet est sans ambiguïté, obtenir des services de recherche de personnes à l'échelle nationale pour les opérations de l'ICE. Selon les bases de données gouvernementales, Capgemini est un partenaire historique de l'ICE avec des contrats dont certains se chiffrent en dizaines de millions de dollars. Les prestations offertes par le géant français vont de la planification des détentions à du support informatique. Les activités de l'ICE étant au centre des résistances à Trump et à ses politiques, les firmes qui font affaire avec l'agence comme Dell, Microsoft, Motorola, Comcast ou Xerox sont particulièrement ciblées par les opposants aux États-Unis à travers des campagnes de boycott. Rien de tel n'est signalé pour l'instant à l'égard de Capgemini, mais cette menace et le déficit d'image du groupe a poussé le directeur général à déclarer que le conseil d'administration du groupe était en train de revoir la nature et l'étendue de ce contrat. Hier, dimanche, Capgemini a annoncé la mise en vente de sa filiale travaillant pour la police américaine de l'immigration. Comme quoi, la circulation de l'information, souvent entravée par le secret des affaires, et la menace du boycott demeurent des leviers de lutte redoutablement efficaces, capables d'ébranler l'image des entreprises et de les contraindre à revoir leurs engagements.
Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call.
Il est 12h30, le temps pluvieux, c'est un peu gris, mais tout se voit bien, on est sur Radio Escapade. Et on continue d'observer ce qui se passe dans le jeu de miroir qui s'opère entre la France et les États-Unis. Daniel Mermet, une figure de la radio, évoque au micro d'Intermidi le documentaire qu'il vient de co-réaliser avec Olivier Azam, Owarzine, une histoire populaire américaine 2. Daniel Mermet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, on vous connaît pour Là-bas si j'y suis, une émission célèbre qui a été diffusée un temps sur France Inter,
ouais.
Et maintenant qui est diffusée sur un site d'information.
Voilà.
Vous êtes voilà. Aussi réalisateur.
Ouais, et co-réalisateur.
Co-réalisateur avec Olivier Azam,
voilà.
des Mutins de Pangée, qui est du coin aussi, parce que je crois qu'il est Narbonnais, Olivier, hein, ça.
Oh, il est du coin, il est du coin. Oui.
Et là, vous revenez à Montpellier pour une deuxième édition d'une histoire populaire des États-Unis,
ouais.
D'après le livre d'Owarzine.
Ouais.
Donc Owarzine, qui était un historien, un politiste, et qui a mis en lumière l'histoire sociale et occultée des États-Unis.
Ouais, c'est ça.
Alors, à l'heure où l'histoire est un nouveau champ de bataille, qu'est-ce qui vous semble plus urgent de rappeler aujourd'hui dans l'approche de Owarzine ?
Bah évidemment, alors, en ce moment, pour ce film, on est aidé. On est très, très, très aidé par l'actuel président des États-Unis qui a attaqué Zinn nommément. Il a fait une sortie sur Howard Zinn comme celui qui a perverti la jeunesse, etc. Donc c'est ça qui nous a donné envie de faire une deuxième partie. On avait fait une première partie il y a une dizaine d'années et on avait beaucoup de choses, d'archives, etc. On avait surtout le grand entretien qu'on avait fait avec lui. Voilà, et ça nous a décidé à nous remettre au boulot. Voilà, et c'est vrai que ça a un écho évidemment différent aujourd'hui.
Alors le film, il couvre toute l'histoire des États-Unis depuis le débarquement de Christophe Colomb en 1492, avec des renvois à aujourd'hui. Donc vous parliez de Trump, on le voit notamment réhabiliter les auteurs du dernier massacre indien. Et il articule aussi la trajectoire personnelle d'Edward Zinn et la grande histoire sociale américaine. Alors c'est une prouesse en fait en termes de structure. Comment vous avez travaillé la structure ?
On n'a pas voulu illustrer son bouquin. C'est un entretien qu'on a eu, très long entretien qu'on a eu avec lui en 2007. Et tu vois, on a suivi la conversation. C'est lui qui a fixé un peu les choses. Il adorait poser une question, c'est comment en êtes-vous arrivé à penser ce que vous pensez ? Et donc je lui ai reposé la question et c'est reparti là-dessus. Donc effectivement, il a suivi un peu évidemment la trajectoire de son bouquin. Mais nous, en l'espace d'une heure, une heure et demie ou une heure cinquante, ce deuxième film c'est 1h50, on ne suit pas l'histoire chronologiquement, hein. On a insisté dans le premier film sur des aspects moins connus de l'histoire américaine. Si on évoque l'histoire américaine, on pense tout de suite Martin Luther King, on pense l'esclavage, etc. Là, on a traité ça, bien évidemment, on a évoqué tout ça. Mais dans le premier, on avait insisté plus sur les luttes sociales.
Oui, tout à fait.
Et beaucoup, ça c'est beaucoup moins connu, justement du 1er mai, etc. Et là, dans ce film-là, on reprend les grandes dates, évidemment, Christophe Colomb, parce que c'était le scandale qu'avait suscité son bouquin quand il est sorti en 1980, c'est qu'il commence par dire que Christophe Colomb n'a jamais été un bienfaiteur, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéressait, c'est l'or, les ressources, c'était pas du tout autre chose, c'est pas autre ouais. chose que... Ça avait choqué beaucoup à l'époque, parce que Christophe Colomb est un héros aux États-Unis. Columbus Day, c'est une date très importante aux États-Unis. Donc ça avait pas mal choqué. Donc on évoque un certain nombre de points, mais disons que là, on travaille plus sur l'affaire de Scottsboro. Scottsboro, c'est une... on ne fait pas le résumé là, mais c'est une... c'est un épisode de l'histoire américaine qui met en contact la lutte de race et la lutte de classe. Et c'est ça qui nous intéressait, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient en France, hein, qui revient dans l'actualité en France, lutte de race, lutte de classe. Les États-Unis sont beaucoup plus... Voilà, on insiste là-dessus, on insiste sur Ford, sur Henry Ford. On ignore en France, mais même aux États-Unis, que ça a été un antisémite militant, Henry Ford. Hein. Ça a été un ami d'Hitler. Hitler avait le portrait d'Henry Ford dans son bureau, quand même. Mmh. Et comment aussi, comment Ford a réussi à effacer cette image ? C'est un des premiers annonceurs américains, c'est Ford. Il y a la fondation Ford, etc. Et puis, on a insisté aussi sur la montée du nazisme dans les années 30 aux États-Unis, avec l'affaire Lindbergh, etc. Chose qui étonne beaucoup. Il dit comment le nazisme et les États-Unis, ça semble incompatible. Et pourtant, c'était pas si éloigné, il y avait un risque nazi. Et là, il y a un écho avec aujourd'hui, avec Trump.
Alors, vous citiez ce rapport que fait Zinn entre les droits civiques et les luttes sociales, mmh. et il souligne que faire monter le racisme permet de contenir les mouvements sociaux.
Oui.
C'est une stratégie de division. Et est-ce qu'elle est toujours opérationnelle aujourd'hui aux États-Unis ?
Elle est opérationnelle partout depuis toujours. La xénophobie, c'est un phénomène, anthropologique. Il y a toujours, on déteste le voisin. C'est terrible, c'est un penchant épouvantable, mais c'est ainsi. Et à chaque fois que le pouvoir se sent menacé, que l'oligarchie est menacée, elle dit « mais non, c'est pas nous les fautifs, c'est la race d'un côté, c'est le pays d'à côté, etc. » Ça marche à tous les coups. Et bien sûr que c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Il y a une rage, une violence contre les immigrés qui est extraordinaire. On le voit avec ces milices ICE, I-C-E, qui sont en train de buter les gens, qui ont tué une femme récemment à Minneapolis. Et ça, c'est une façon de détourner à tous les coups. Et on le voit en France actuellement. Le problème, c'est l'immigré, le problème, c'est le musulman, etc. C'est des vieilles méthodes, c'est des vieilles stratégies qui marchent par moments et qu'il faut tout faire pour déjouer, mettre ça en lumière.
Alors, il y a Édouard Glissant qui s'est aussi plongé sur l'histoire américaine et qui fait cette association au niveau de la... Il dit en gros, le pays s'est constitué sur le génocide des Indiens et l'esclavage. Et quelque part, ce pays, il n'a plus de chance de devenir progressiste, la nation en elle-même. Est-ce que c'est quelque chose que pouvait partager Zinn, selon vous ?
Moi, je veux pas penser à la place de Zinn. Hein. Il était très optimiste. Il était très, très optimiste. C'est des gens qui sont pour l'émancipation. Hein, il a toujours fait. Il a donné des cours à Boston. Hein. Il était partisan de l'émancipation et partisan aussi de dire, comme son ami Chomsky, l'avenir, c'est pas ce qui arrive, c'est ce que vous en faites. On vous donne des éléments contradictoires d'appréciation, des informations, des voilà, mais c'est à vous de jouer, quoi. Hein. C'est à vous de jouer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bien sûr qu'on peut changer les choses. Mais il y a une chose qui est très puissante, qui est peut-être pas assez, qu'on n'a pas insisté suffisamment dans notre film, mais qui aura une part importante dans le prochain, c'est la religion. C'est le poids de la religion aux États-Unis. C'est la Bible imbibe tout aux États-Unis. Hein. C'est la destinée manifeste. Il y a cette expression, la destinée manifeste, qui est arrivée dans les années 1840, je crois, pour justifier la conquête de l'Ouest. C'est une mission divine, la destinée manifeste. C'est dans la Bible. Croissez, multipliez-vous. Donc, croissez, multipliez-vous, il va nous falloir de la place, puisqu'on va croître et se multiplier. Donc il est légitime, il est normal, par rapport au tout-puissant, de gagner des territoires. S'il se trouve des gens qui sont sur ces territoires, on négociera ou on négociera pas avec eux. C'est gros ce que je dis là, j'essaye d'employer le langage biblique, mais
C'est le langage de Trump en ce moment.
C'est exactement le langage de Trump. La destinée manifeste, il a utilisé ce terme lors de son... quand il a pris le pouvoir, et la destinée manifeste, nous irons dans les étoiles et nous irons sur Mars. Hein, et c'est une idéologie qui est très proche du sionisme. C'est très proche du sionisme.
Alors on voit aussi la Grande Dépression, la crise de 1929, avec le New Deal mis en place par Roosevelt. Et à ce moment-là, émerge une politique qu'on pourrait qualifier de keynésienne, une politique de gauche. Peut-on dire que les idées économiques de cette période ont été volontairement effacées de la mémoire collective américaine ?
On a l'impression que Roosevelt était obligé. il a dit, c'est parce que la gauche montait aux États-Unis. On a un peu effacé tout ça. Mais le Parti communiste américain s'était effacé des mémoires. Mais c'était une puissance. Et le modèle soviétique, contrairement à ce qu'on croit, était beaucoup plus influent. Il y avait une grande revue, puisque vous faites une revue, qui s'appelait Massise. Et tout ça, c'était assez puissant. Donc, les riches, l'oligarchie américaine commence à avoir un peu peur de tout ça. Et Roosevelt aussi avait un peu peur. Donc, il a dit aux riches, à cette oligarchie, il faut vous calmer, il faut accepter de perdre quelques billes si vous voulez rester. Si vous voulez rester, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des politiques qu'on peut qualifier de progressistes hein, dans ces années-là. Voilà, mais en tous les cas, le New Deal, finalement, a sans doute soulagé les souffrances sociales, etc. Mais enfin, la solution de la crise de 1929, ça a été la guerre. Hein, ça a été le New Deal lui-même... Oui, il y a eu des expériences sociales, des expériences aussi en matière d'art, etc., qui ont été vachement intéressantes.
Alors cette gauche américaine qu'on cherche, elle a été marginalisée par la répression ou domestiquée par le Parti démocrate et les pouvoirs économiques ?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a une gauche américaine, il ne faut pas croire qu'il y a... On l'a vu avec Bernie Sanders, par exemple, pour prendre une pipe. En 2016, Bernie Sanders, il était en tête chez les démocrates. Il était en tête parce qu'il était sur deux grands arguments, qui étaient de dire une sécurité sociale à la française, voilà, et une éducation publique, à la française aussi, c'est-à-dire que les deux grands soucis des Américains, c'est la santé, ça coûte une fortune de se faire soigner, comme vous savez, et puis les études. Barack Obama, il y a quelque temps, disait qu'il avait fini de payer ses études. Donc Bernie Sanders, sur ces deux points-là, avait une majorité démocrate. Il a fallu qu'il y ait eu des tas de magouilles pour que ce soit Clinton qui passe devant. Enfin, il y a Clinton qui se passe devant. Donc on le voit avec Mamdani, le nouveau maire de New York, qui avance sur des choses très concrètes. Hein, les loyers, l'alimentation, trouver des prix pour se nourrir, et les déplacements dans la ville, c'est des choses très simples, très concrètes, mais qui marchent et qui parlent à tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a une gauche américaine ? Il y en a une dans la mesure où des gens sont capables d'essayer de répondre à ces questions-là.
Ce qui se passe justement avec l'élection du maire de New York, est-ce que c'est un laboratoire du renouveau démocratique ? Est-ce qu'on peut partager un espoir ?
Non, mais il y a plein de choses, il ne faut pas croire. Il y a une potentialité. Alors évidemment, ça ne rentre pas tout à fait dans nos cases, nous qui sommes avec une gauche comme ci, comme ça, pas comme ci, pas comme ça, etc. C'est plus vague. Mais il y a une tradition progressiste aux États-Unis. Et c'est quand même la, la faiblesse du démocrate qui a permis l'arrivée de Trump à deux fois de suite quand même. Hein. Et là, il y a des analogies à faire avec la France. Mais il n'est pas du tout... c'est un peu la même chose. Il y a une espèce de bourgeoisie de gauche qui a abandonné la classe populaire aux États-Unis.
Sur la crise démocratique, hein, qui rappelle un peu les années 30, est-ce que, bon, les restrictions des droits civiques, etc., est-ce que ça vous semble être une répétition historique ou une nouvelle phase ?
Ce qui se passe actuellement, ouais. C'est difficile de dire, c'est difficile de dire. Il y a cette hégémonie, hein, il y a cette... cette domination, il y a cette mission sacrée de domination qui est et puis cette toute puissance militaire, à commencer par ça, toute puissance économique, mais avec des inégalités énormes à l'intérieur du pays. On a fait des reportages à l'époque au temps du Tea Party et on a vraiment rencontré des gens qui sont dans la pauvreté, hein, qui ne peuvent pas se payer une bière, etc. Donc, il y a une... Mais il y a beaucoup d'analogies à faire avec ce qui se passe ici. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a des ressources pour... Il y a des ressources profondes pour une gauche, enfin pour plus d'égalité, moins de souffrance aux États-Unis.
Et alors, Zinn, il insistait aussi sur le lien entre les luttes sociales internes et la solidarité internationale. Mmh. Cette articulation-là, aujourd'hui, elle semble difficile, non ?
Oui, c'est ça qu'on a vu avec, sur Sacco et Vanzetti, par exemple, et sur l'affaire de Scottsboro. Deux fois, on voit qu'il y a eu une mobilisation mondiale sur ces causes-là. Ouais. Dans des époques, là on parle des années 20-30, dans des époques où la communication n'est pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui, et il y avait une mobilisation planétaire, alors qu'aujourd'hui qu'on a les moyens les plus formidables qu'on a jamais eu, sans précédent, de communiquer. On dit dans le film, l'international n'est plus ce qu'elle était.
On parle aussi de la guerre d'Espagne, oui. où les Américains se mobilisent en masse.
Oui, oui. Le mouvement Lincoln, la guerre de Lincoln qui s'était mobilisée, Oui, c'est vrai. Mais lui, lui-même, il était tout gamin. Il était né en 22, donc en 36, il avait 14 ans. Donc il rêvait d'y aller. Il était très admiratif des gars qui sont allés. Oui. Il y a eu ces engagements-là. Il y a eu ces solidarités-là. Il n'y a pas rien. Hein. Il y a une image. Les États-Unis sont très forts pour le soft power. Ça, c'est très, très fort. Ils l'ont montré à la Libération. Ça n'a pas été une armée triomphale qui marche au pas avec, en déployant son matériel militaire, comme le faisaient les Soviétiques. Eux, ça a été le charme. Ça a été, on offre des chewing-gums, des jolies cigarettes, des jolis bas pour les filles. Les gars sont vachement gentils, etc. C'est un soft power formidable.
Hollywood, comme tout le travail d'Hollywood.
L'Hollywood, voilà, Hollywood, la propagande par le rêve. Et il y a une séduction américaine qui est formidable dans la musique, etc. Il y a un talent, il y a une force d'expression. Ça, c'est une particularité sans doute de la culture américaine, c'est une force d'expression qu'ont les gens, tout simplement. Hein. Nous, on est un pays de l'écriture, de la littérature, on dit aux gosses, tu bouges pas dans la classe, etc. Il faut... Là, les mômes, on a Julian Lipkins, ce prof dans sa classe qui suit le bouquin de Zinn pour son enseignement de l'histoire. Il fait des jeux de rôle avec ses élèves. D'ailleurs, il va venir, on l'a invité à, il va être là dans deux semaines à Paris. On l'a invité à venir expliquer sa pédagogie. Il va nous dire aussi qu'est-ce que c'est d'enseigner l'histoire actuellement au temps de Donald Trump. Et aussi, on va se demander s'il va pouvoir rentrer tranquillement dans son pays.
Alors, pour revenir sur le rêve américain, qui paraît à bien des égards un outil de pacification sociale, peut-on encore déconstruire ce mythe à travers le cinéma documentaire ?
Nous, on essaye, on croit ça. On croit, nous, on est... Voilà, on fait que ce soit... Olivier, avec ses films et avec son travail avec les Mutins de Pangée, ou moi avec mon genre de journaliste, on croit à l'émancipation, on croit contribuer à une émancipation. Voilà, c'est assez simple. Toujours, encore une fois, j'y reviens avec cette idée que c'est pas, nous, on n'est pas des militants, hein, on fait un travail, on est engagé, mais pas militant pour nous, c'est une grande différence. Et voilà, les gens font ce qu'ils veulent de ce qu'on leur suggère, mais on va à contre-courant, on n'est pas les seuls, hein, mais on va à contre-courant de l'image diffusée, de l'idée qu'on se fait des États-Unis. Et je fais attention à dire États-Unis parce que dans tous les débats, il y a un truc marrant, dans tous les débats, il y a toujours quelqu'un là depuis la tournée qu'on est en train de faire qui nous dit « Mais pourquoi vous avez intitulé une histoire populaire américaine et non pas états-unienne ?» Alors que c'est le titre qu'on avait choisi pour montrer qu'on ne voulait pas suivre le livre, puisque le titre du livre c'est les États-Unis. Et ça, c'est parce que depuis l'histoire du Venezuela, l'opinion a compris la différence qui existe entre les États-Unis et l'Amérique. Alors que dans le langage ici, dans le langage en France, on dit les Américains. Dans Jour de fête, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jour de fête avec Dulot, le facteur fait sa tournée à l'américaine. Hein. Voilà. C'est le mot américain, ça veut dire les États-Unis. Et là, ce qui s'est passé avec le Venezuela, c'est que je dis, non, il ne faut pas confondre les États-Unis et l'Amérique. Amériques.
C'est pas un détail, oui.
Ouais.
Howard Zinn écrivait contre l'histoire officielle. Aujourd'hui, qui contrôle le récit historique ?
Aux États-Unis ?
Ouais.
Je saurais pas dire. Je crois qu'il est contesté. Ben, c'est les grands médias, c'est les très grands médias qui contrôle New York Times, etc., les grands journaux, et puis évidemment les réseaux sociaux, qui sont très très puissants et qui fabriquent l'opinion, c'est Fox News, c'est ces grosses machines à produire. C'est eux qui ont inventé ces news.
Si on fait le parallèle en France avec Bolloré qui monopolise l'édition scolaire avec 74% du scolaire,
ouais.
C'est quand même inquiétant.
Ben, il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre ça. Il faut dire autre chose. Il faut faire attention il faut faire attention pour autant. Notre arme, c'est la vérité. Notre arme, c'est la vérité. Surtout que là, on est rentré dans une époque de post-vérité. C'est-à-dire que n'importe quel mensonge, on a tous, ça relève de l'espèce humaine, on préfère croire que savoir. On préfère croire que savoir. Et notre boulot, c'est quand même, nous, on fait partie de ceux qui croient. Si on croit à quelque chose, c'est qu'on croit au savoir. On croit à la vérité. On pense que c'est un moyen, la vérité, la recherche de la vérité est un moyen de progrès, est un moyen de paix aussi. Et là, la vérité est menacée, on est dans la post-vérité. Aujourd'hui, on le voit avec les émissions de CNews ou celles qui viennent de Fox News, qui sont des mensonges manifestes, sans aucune... C'est pas du journalisme, c'est des proclamations, des affirmations, qui jouent sur les affects, sur les peurs, sur les angoisses, qui fabriquent de la peur et de l'angoisse, et qui joue ensuite, qui capitalise, et j'emploie ce mot à dessein, sur les peurs et les angoisses qu'il fabrique.
Et donc pour finir, bon, ce livre, Une histoire populaire des États-Unis, qu'on peut d'ailleurs trouver chez Agon Edition,
oui.
Il inspire un troisième volet.
Ouais.
Alors
ouais.
Vous disiez, ça va travailler plutôt sur la dimension de la religion.
Non, ce sera un des aspects, ouais. Mais le troisième partie, c'est que cette deuxième partie s'arrête à Hiroshima. Hein. Jusque-là, Howard Zinn, c'était un brave Américain. Voilà, pour lui, Hiroshima, il avait 45, ça fait 45, il avait 23 ans, c'était encore un jeune homme. Il avait été lieutenant bombardier, il avait 23 ans, voilà. Et Hiroshima, c'était pas mal, hein. La guerre est finie et l'Amérique a gagné, voilà. Il en était là, hein. Bien qu'il soit un progressiste et un gars qui avait envie d'en découdre, voilà. Et c'est après ça.
Il y a un déclic.
Alors le déclic, c'est le GI Bill, c'est-à-dire que ce qui a été proposé à ces très jeunes vétérans, qui revenait du front, c'était la possibilité d'entrer à l'université sans avoir fait des études préalables et de pouvoir rentrer soit en droit, soit en histoire. Et lui, il est entré en histoire, et c'est à partir de là qu'il va devenir pacifiste et qu'il va développer ses idées et son travail d'historien.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
On reste optimiste avec Daniel Mermet. Il a raison, l'arme de journaliste, c'est la vérité. Si vous souhaitez vous essayer à l'enquête journalistique, Altermini vous propose de vivre une expérience immersive de journaliste citoyen autour de l'économie sociale et solidaire. Au croisement de l'éducation aux médias, de l'enquête de terrain et de l'engagement local, cet atelier d'enquête journalistique soutenu par le Conseil départemental du Gard se tiendra entre mars et mai 2026. C'est gratuit et cela concerne les habitants du pays viganais. Il reste quelques places et si cette expérience pratique vous tente, écrivez-nous à l'adresse débat citoyen tout attaché au singulier @altermidi.org. Vous pouvez aussi nous contacter au 06 77 50 97 27. Ainsi s'achève notre escapade du jour. Merci à Antoine, à la technique. On se retrouve le mois prochain sur les ondes de Radio Escapade. D'ici là, vous pouvez suivre notre actu quotidienne interrégionale et méditerranéenne en accès libre sur altermidi.org. Vous inscrire à notre newsletter pour recevoir nos infos. L'avenir, c'est pas ce qui arrive, c'est ce que vous en faites, disait l'historien Howard Zinn. À vous de jouer!